soir. On est à Vab, c'est ça? Yehuda, ata yoducha achecha. Yehuda, toi, tes frères te reconnaîtront. C'est-à-dire, achecha modim becha. Tes frères te reconnaissent. Imcha modabar becha. Ta mère te reconnaît. Ani ba'atzmi modelecha. Moi, dit Yaakov, moi-même, effectivement, je te reconnais. Ça veut dire, en fait, je dis ta louange, quoi. Je dis du bien de toi. Amar Rav Shimon bar Yochai. Tous tes frères seront appelés d'après toi, puisque on est tous appelés Yehudim, d'après Yehuda. En Adam Omer, Reuveni Yana, Shimoni Yana. Personne ne dit je suis un Reuvenite ou je suis un Shimonite. Elle a Yehudi Yana. On dit je suis un juif, un Yehudi, je suis un Yehudi. C'est ça, cette reconnaissance. En soi, c'est surprenant. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'appeler après Yehuda? Pardon ?
C'est pas lui qui a fait le plaidoyer devant Yosef ?
Par la suite, oui, il a fait le plaidoyer. Mais il était roi, ça veut dire que... On ne parle pas de sa royauté. Qu'il ait la royauté, c'est clair. Mais cette idée que tous tes frères vont s'appeler d'après toi, c'est une drôle d'idée, non ? Comment les gens... Et en fait, on sait très bien que même si les gens s'appellent tous Yehudi, ils ont, dans la mesure du possible, ils vont tous garder leur appartenance tribale.
On ne dit pas que les 10 autres tribus ont disparu.
Bon, il y aura Binyamin, en tout cas, il devrait être là aussi. Et la moitié de Ménaché. Enfin, on voit du Midrash, le Midrash qu'on ne pense pas comme ça, puisqu'il dit, personne ne dit je suis un Reuvenite ou Monite, donc ces tribus-là, ils ont disparu, comme tels.
Est-ce que c'est pas lié au fait que c'était le roi?
Ouais, il faut que tu expliques un peu, parce que tu as peut-être raison, mais... De là à dire qu'on appartient à...
C'est plutôt valorisant de dire qu'on appartient au roi que de dire qu'on appartient à quelque chose qu'on bat à la pyramide. À ce moment-là, on peut se poser la question pourquoi lui c'était le roi.
Là, on peut... Il y a un midrash qui explique que quand Yaakov a décidé que Reuven, qui aurait dû être le roi, était le premier-né, qu'il ne pourrait pas l'être, il a fallu aller chercher ensuite. Qui ? Alors Shimon et Lévi ne pouvaient pas l'être. pour la raison du meurtre, du fait qu'ils ont massacré Shrem. Et après, Shimon de Lévi, c'est lui. C'est le premier. Donc il est le premier dans la liste des prétendants, des possibles. Des rois possibles. Ça, c'est pas trop difficile. Pourquoi, effectivement... Alors, est-ce que on va dire... Par exemple, les Français, ils s'appellent France. Ils s'appellent Français, au royaume de France. Mais ce qui est intéressant, c'est que il n'y a personne qui se soit appelé France. Il s'appelle François, mais pas France. Qui? France quoi? Ah oui, chanteuse. D'accord. Ils étaient sur le territoire du roi de France. Les rois de France eux-mêmes ne s'appellent pas tous François. Ils s'appellent Louis, et majoritairement Louis, je pense. Et je pense que c'est un scrute que tout le monde se reconnaît là-dedans. C'est presque comme si Yaakov disait, ben je vois par prophétie que les gens vont s'appeler Yehudi. Le Marzou, il dit, Al-Shema, Vezeu Yoducha Techa. Ils te reconnaissent, ils te reconnaîtront tes frères te reconnaîtront, Shata Iika, ils reconnaîtront que toi tu es l'essentiel, le Kulam Tluim Becha, ils dépendent tous de toi. Ubishman Yuchlelu, Ubishimcha, pardon, Yuchlelu Kmo Biyakov. Alors ça, il dit un peu plus, il dit, et on va s'inclure dans son nom comme on s'inclut dans le nom de Yaakov. Né Israël, né Yaakov, né Israël. On est aussi israélites, quoi.
Mais dans le Lachon, est-ce que ça veut dire que les frères se reconnaîtront en toi, ou bien les frères te reconnaîtront?
Ils te reconnaîtront comme étant l'essentiel. Donc ils se rattacheront à toi. Dans les Likoutim, dans la colonne de gauche, il dit bien que Yehudi Ana va falgav de mitiarsim a yukol echad al shifto. Bien entendu, du point de vue du Yichus, du point de vue de se rattacher à la. Tout le monde se rattachait, chacun se rattachait à sa tribu. Achamairi, kesh nishalin meize am hu. Si on demande à quelqu'un de quel peuple es-tu, il pourrait dire je suis d'un peuple des Reuvenites et des Shimonites. Il dira pas ça. Il dira je suis Yehudi. Ki hu shem meshutaf le kol Israël, que mot Israël au Ivri. C'est un de ces noms communs, comme Israël, comme Ivri, etc. Inami, Achamairi, Achar Galout. Ou alors il faut dire qu'on parle ici d'après le Galout. Ishvatim, le Galout Asirat Ishvatim, après l'exil des 10 tribus, comme tu as dit, chez Ameat Anisharim Mehem, le peu qu'il en reste, Chen Shevet Minyamin, Kulam Nikraim Beshem Yehuda, Shaya Ikar. Là, il est plus clairement le Icar, parce qu'il est numériquement le Icar. Il y a une petite tribu de Binyamin, et puis il y a des individus qui sont de toutes les tribus, tous ceux qui n'ont pas été... L'exil des 10 tribus n'a pas été un exil qui ne laissait personne sur place. Il a évidemment laissé des gens sur place, comme l'exil des Romains a laissé des Juifs sur place, qui sont s'il en est des Palestiniens aujourd'hui. Donc, Amar Rabbi Yehuda bar Simon, Machal le Melech, Shayulo Shnemasar Banim. Donne une parabole. Un roi, il avait 12 fils. Vaya Sham Echad, Vaya Chaviv Alav Yoter Mikulam. Et dans les 12, il y en avait un qui lui était plus cher que les autres. Venatan lo Chelek Bifne Atzmo. Il lui a donné une part à part. Le Chelek Imechav, et une autre part avec les autres frères. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Il manque quelque chose ou quoi? Chelek Imechav, non, il ne manque rien. Mais on ne comprend pas qu'est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il y a avec ce machal? Je crois qu'il manque rien parce que dans le commentaire de la page de droite, c'est Chelko Imechav. Non, effectivement, il doit manquer quelque chose. Vous l'avez?
Est-ce que c'est pas le même... Le commentaire d'Etz Yosef, c'est l'air de se suivre, non? Il n'a pas l'air coupé. Non, vous savez, c'est pas le même...
Mais le Midrash est le même, même si les commentaires ne sont pas les mêmes. Alors ici, il donne quoi comme machal? Il dit, un roi avait 12 fils, Vayasham Echad, Vayachaviv Alav Yoter Mikulam, Natan lo Chelek Bifne Atzmo, Vechelek Imechav. Yadcha Vehoref Oivecha. C'est comme chez nous, non? C'est juste qu'on a un peu l'impression que le machal, il tombe un peu à l'eau, là. Pardon?
Ça donne le machin avec Yehuda. Donc voilà la correspondance.
Oui, au début,
Yehuda, je parle.
Maintenant que Ouna, il dit que c'est de la bracha, la suite, qui dit que. La suite du texte, qui dit que Yadcha beoref oivecha, ta main est sur la nuque de tes ennemis. Alors, maintenant que Ouna, il dit. Que c'est Matana Minshelo Klomar Meota Bracha Sheberchu Aviv Yatra Boref Oivecha. Comment se fait-il qu'il ait la force de mettre la main sur la nuque des ennemis, donc pour les faire plier? C'est la suite de la bracha que son père lui a donnée ici. Oui, je ne sais pas ce qu'apporte le machal. Ici, j'ai l'impression que le machal, il vient dire des choses qu'on ne pourrait pas dire autrement. Mais ici, je crois qu'il ne dit rien de spécial, non? Shaloshne Masar Banim.
La part avec ses frères, c'est qu'ils vont le reconnaître.
Le chidouche, c'est en fait cette idée de lui donner une part avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il lui donne une part avec les autres? Ils ont tous une part en même temps, les uns et les autres. Regardez les likutim. Machal le melech, nire shetama machal lomar. Le machal, il vient pour dire shema shenatan yeter se'et li Yuda alechav. Qu'il a donné une élévation supplémentaire à Yuda par rapport à ses frères. Aya le chibato alav. C'était l'expression de son amour pour lui. Tfei Mishar Banav, Kemelech Amchalek, Mane Yitera, Lechad Mi Banav, Mipte Chibato. Comme un roi qui donne une part supplémentaire à un enfant, parce qu'il l'aime. Vainu Ipne chez Oda Bemase Tamar. Mais ici, ce n'est pas un amour sans raison, disons simplement de position, parce que. Comme un peu chez Yosef, au départ, on a l'impression que c'est parce qu'il est le fils de Rachel qu'il l'aime de cette manière-là. Mais là, dans Maase Tamar, ça veut dire que dans Maase Tamar, cet amour de Yaakov pour Yehuda, Yehuda l'a construit. Il l'a construit en étant modé dans l'histoire de Tamar. Chez Bavurze, Zacha Yehuda le Malchut. Comme ceux qui disent que la raison pour laquelle Yehuda, finalement, il a été meler, c'est parce qu'il a été capable de reconnaître qu'il avait fait une faute. Donc, si un roi est. Il ne peut être roi que s'il est capable de reconnaître qu'il n'est pas infaillible. Parce que sinon, il va attraper la grosse tête et il va s'imaginer qu'il est infaillible. Vim Tomar, pardon, j'ai sauté. Inami Mivne Shenishpal Livne Yosef. Deuxième raison, c'est qu'il s'est écrasé devant Yosef. On verra plus bas. Et pas comme celui qui dit que Mivne Srut Narshon, que dit Atam. D'autres disent que c'est grâce au mérite de Narshon qui va plonger le premier dans la mer. Qui est de la tribu d'Yehuda, hein. C'est pour cette raison que Yehuda deviendrait le roi. Vim Tomar, Are Amar Beperek Kama de Megillah, Leolam Alishane Adam Beno Ben Abanim. Et ça, c'est insupportable, cette histoire. Ce père qui favorise un de ses enfants au détriment des autres. Bon. Et la Gemara dans Megillah, elle dit très clairement. Un homme n'a pas le droit de le faire. Alors, et c'est Yaakov. À la fin de sa vie, il lui donne. Quoi, t'as pas encore appris de ce qui s'est passé avec Yosef, maintenant tu commences avec Yehuda. T'as donné un statut à part à Yosef. T'as vu ce que ça a donné. Et maintenant tu donnes un statut à part à Yehuda par amour pour lui. On a l'impression que. Quand ils ont une idée, les avot, ils continuent de faire les choses. Avraham Avinu, quand Sarah est prise par Paro, il arrive chez Avimelech, rebelote, il refait le même cinéma. Et Yitzhak Avinu fait la même chose. Il arrive chez Avimelech, rebelote. Incompréhensible, je veux dire. Incompréhensible, cette démarche. Enfin, incompréhensible. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est bien. Ah, ça a failli mal tourner. Ok, ça a failli mal tourner, ça a pas mal tourné. Mais l'histoire de Yosef, ça. Bon, je sais pas, on peut dire, est-ce que ça a seulement failli mal. On a l'impression que c'était plus que ça. Mais non, il continue. Il refait la même chose. Alors, ce qu'il demande ici, comment c'est possible? Le Olam Aishane Adam, Aishane Adam Benobin Abanim, Share Bishvil, Mishkan Shteslaim. Mais là, pour deux, pour je ne sais pas combien de grammes de soie, chez Yosef, Yaakov et Yosef, que Yaakov a donné en plus à Yosef sous la forme de cette fameuse tunique de soie qu'il lui a faite, Nidgalgel Adavar ve Vidach le Mitzrayim. C'est-à-dire que la chose s'est faite et on s'est retrouvé en Égypte. Comment il peut faire, comment il peut ne pas tenir compte de ce qui est arrivé à Yosef? Là-bas, ils n'étaient pas d'accord. Ils ne reconnaissaient pas Yosef comme un supérieur. Aval Yuda, c'est ce qu'il lui dit. Toi, je peux le faire parce que Yoducha Achecha. Ils sont d'accord qu'il leur est supérieur. Et là, je continue les likutim. Et il dit, Yuda, ata bifne atzmecha. Toi, tu as une part à toi, et tu as aussi une part avec tes autres frères. Alors, ce n'est pas vraiment une part au sens, ils vont lui donner du terrain. C'est comme tu es le roi, alors ils vont te donner des privilèges sur leur part. Lui, Et Yosef, il a l'air de ne pas savoir ce qu'il faut en prendre. Il dit, c'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il veut. Kaman itchabet Yoshua sheinaten lo odef velo natan lo. Oreth. Combien Yoshua a travaillé pour qu'on lui qu'on lui donne la nuque des ennemis, quoi. C'est-à-dire qu'en fait les ennemis fuient devant lui. Il ne l'a pas obtenu. C'est marqué Bi Adoni Ma Omar Achare Asher Afach, etc. Ou le Minitan, et David. C'est marqué Veoivai Tatali Oref. Et mon ennemi, il m'a donné la nuque, ça veut dire il a fui devant moi. Donc si toi tu as la main sur... sur la nuque de tes ennemis, ça veut dire ils sont là, ils sont devant, ils tournent le dos et toi tu les tiens. Lama shayu patirikin shelo. Pourquoi? Parce qu'ils étaient patirikin shelo. Ils étaient ces on a un peu l'impression que Patirikin, c'est comme pater, c'est comme un mot qui semble représenter un héritage, ça vient du père. C'est... c'est katouf bo yadcha beoref oivecha. Comment est-ce que David a pu la voir, cette situation-là, alors que Joshua, qui avait probablement autant fait que David, plus, lui, il n'a pas obtenu cette victoire complète devant les ennemis qui sont obligés de fuir, quoi, qui sont obligés de prendre des postures dans lesquelles on voit très bien qu'ils ont été vaincus. Mais David, lui, il l'a obtenu, parce que David, c'est la tribu d'Yehuda. Et donc, c'est devenu un horaire, comme c'est marqué que toi, Yehuda, tu auras la main sur la nuque de tes ennemis. C'est là, toi et tes descendants, vous aurez la main sur la nuque de vos ennemis. Et de ce fait, David pouvait le faire. Dans les coutumes, ils disent... Kama nitrabel Yoshua, il dit, Ata acha lash meinan, ça vient ici nous laisser entendre, Shein birkat, que la bracha que Yaakov a donnée à Yehuda, Yadcha beoref oivecha, ta main sur la nuque de tes ennemis, c'est pas simplement nitsuach haoivim, d'avoir vaincu les ennemis, le vad. Te enze meyuchad li Yehuda, parce que ça c'est pas spécifique à Yehuda. Igam Begad, Ktiv Kelavi. Dans la bracha de Gad, c'est aussi marqué Kelavi. Kelavi, c'est un lionceau. Kelavi Shachen, Toref, Gomer. Donc il est là, il est là le lionceau, et puis il va déchirer. Vod, Maitama Yadra Be Oref, Nema. Timtsa yadcha lechol oivecha. Pourquoi on dit Stavka sur la. Tu les tiendras, ils seront dans ta main. Vali bracha miyuchedet li Yehuda. Mais ici on a affaire à une bracha spécifique pour Yehuda. Shafilu Yoshua, même Yoshua qui a gagné contre les ennemis. Lo zachala, il n'a pas été zoché, il n'a pas mérité cette bracha. Veyirtze she'ainyan hu shelo tiyeh tkuma le'yavim le'ilachem ba. Aval yavchu oref ve'yanusu mipanav. Mais la bracha en question, c'est que non seulement ils seront vaincus, mais qu'ils n'auront pas de force du tout pour se ressaisir. C'est-à-dire ils vont s'enfuir, ils vont partir. Viesh beze tetoalot toelet ha'echad ha'eder ve'hatzar ve'ha'pachad. Donc il y a effectivement le fait que bon, on va leur faire peur, ils vont souffrir, ils vont avoir des manques. Vacheni akavod chez En masim panim negdo al derech vayar tsarav achor chechpat olam natan lamo. En plus, il y a un problème de kavod qu'ils n'oseront pas du tout bichlal se faire face, se montrer devant Yehuda. Uma shezacha Yehuda leze mizulato. Et le fait que Yehuda il ait eu accès à cette bracha à laquelle les autres n'ont pas eu accès, il venait chez Ikait Esav, Mimul Orpo, Latzil et Yaakov. Kedita, Veshocher Tov, Mizmor Yudchet, dans le Midrash sur Tehilim, qui dit que Yehuda, il a frappé Esav, littéralement en face de sa nuque. Ça veut dire sur la gorge ou bien. Léatil et Yaakov, pour sauver Yaakov, comme c'est marqué dans un midrash sur Tehilim. Shofer Tov, c'est un midrash qui est là-bas. Il revient sur Kaman Yitrabet, combien il a fait d'efforts. Afshay Yazé Alide Chetachan, la raison pour laquelle ça n'a pas marché, semble-t-il, pour Yoshua. Parce que la faute de Achan, vous vous souvenez, les Bnei Israël n'avaient pas le droit du butin dans les guerres de conquête d'Eretz Israël. De la même manière qu'ils n'avaient pas le droit de prendre du butin dans la guerre qu'ils ont livré contre les Perses au moment de Pourim. Parce qu'il y a ce principe, en fait, qui est que dès lors que, dans une guerre, on prend le butin, alors la guerre, elle apparaît comme ayant été rien d'autre qu'une tentative de prendre le butin. Parce que la trace de la guerre, c'est quoi? C'est que, voilà, ils ont pris notre butin. Ils ont pris nos richesses. Donc on a... Si vous voulez, ça descend, ça enlève toute la noblesse éventuelle de la guerre, les raisons pour lesquelles on a fait la guerre, contre Avodah Zara, pour se défendre à Pourim, etc. On va dire, ah ouais, bon, si on prit du butin, bon, c'est terminé. Alors on sait ce que valait la guerre en question. C'est une guerre pour faire main basse sur les richesses. C'est comme ça que c'est évalué. Dès lors que tu prends le butin, alors ça dégrade complètement les buts de la guerre. Alors en fait, Hachem avait interdit qu'on prenne du butin. Et tout le monde a obéi, sauf un bonhomme, Achan, qui a pris quelque chose et qui l'a caché, bref. Et donc les Bnei Israël, après cela, ils ont perdu la guerre. Alors Yoshua s'est tourné vers Hachem et il a dit, mais tu m'as dit d'aller faire la guerre. Quand tu me dis d'aller faire la guerre, ça veut dire, on fait la guerre, on gagne et il n'y a pas de perte. Et là maintenant, on a perdu. Alors Hachem lui a dit, Chata Israël. Israël a fauté. Bon, c'est là-bas qu'il y a cette fameuse réponse. Yoshua, il a demandé à Hachem, Mi Chata. Qui a fauté? Alors Hachem lui a dit, Vechidal Tourinani. Je suis un délateur, moi. Tu me demandes. Je ne te dirai pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a interrogé Urim Vetumim. Il y avait Urim Vetumim, le pectoral, etc., du Kohen Gadol. Donc les Bnei Israël, quand ils avaient besoin d'une réponse d'Hachem, ils interrogeaient sur les pierres précieuses, et ils ont une réponse. Quelle différence il y a si Hachem lui répond directement ou si il répond par le biais des Urim Vetumim? C'est pas du tout la même chose. Urim Vetumim, c'est un des moyens qui ont été mis à la disposition du clan Israël dans son fonctionnement normal pour avoir des informations. Demander directement à Hachem, c'est court-circuiter tout ce système et essayer d'avoir par délation. Donc Hachem ne lui a pas dit. Finalement, il a trouvé que c'était Achan et on a réglé le problème. Donc on peut dire, la raison pour laquelle Yoshua, il n'a pas eu le sroute que les Oivim ont tourné le dos, ils étaient en déroute, c'est à cause de Achan. Alors les Koutim disent, mais au temps de David, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas... Il y avait aussi des gens qui n'étaient pas terribles, qui n'étaient pas 100% ce qu'il fallait. Il dit, « Bevadaï, au temps de David, Dimtsu Anashim, Lotovim, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas des bonnes gens. Vim Kolze, Tamid Daya Matsya. » Et néanmoins, avec tout ça, David gagnait tout le temps. Donc tu ne peux pas dire que c'était à cause d'Achan. Parce que des Achan, il y en avait autant de David aussi. Donc, pourquoi est-ce que David gagnait? Parce que Yaakov avait donné la promesse à son ancêtre, Yehuda, qu'il gagnerait. Ici, on voit que Yehuda, c'est le premier à avoir une bracha vraiment positive. Parce que là, Reuven, Shimon, Lévi, c'est pas terrible ce que Yaakov leur a réservé. Il n'y a pas de quoi pavoiser. Yehuda, c'est le premier à avoir du positif. Et le positif, c'est mettre en place une structure pour l'avenir du clan Israël. On dit ici quelque chose pour Yehuda, qui éventuellement va concerner David, il y a pas mal de générations plus tard, mais éventuellement, bien plus tard, va concerner l'Ebné Israël en Galoute, pour le chef du Galoute, en Galoute, c'est Hillel, etc., qui sont aussi des descendants de la tribu royale, des descendants de Yehuda. Ishtachavu lecha bnei avicha, ils se prosterneront devant toi les fils de ton père. Les fils de ton père, c'est Yaakov qui parle, c'est-à-dire mes fils. Pardon? Mais ici, c'est Bnei Avicha d'abord. Il va dire après aussi, mais il y a Avicha. Pardon?
Dans le Passou, c'est bien Avicha.
Oui, après il y aura Imecha. Les deux. Acha ou Omer, Vishtachavu lecha bnei Avicha. Lalan ou Omer, Vishtachavu lecha bnei Imecha. Le Midrash dit, il faut le savoir, c'est bnei Avicha ou bnei Imecha. Et là, Yitzhak, à l'idée chez le Natal, et là, Isha Achat, ou Omer, Vishtachavu Lecha, Bnei Mecha, il n'a pas besoin de préciser, Avicha, parce qu'il n'y a qu'une seule mère. Aval Yaakov, à l'idée chez Natal, Arba Nashim, Ksiv, Vishtachavu Lecha, Bnei Avicha. Donc, pour dire que ce n'est pas seulement ceux, tes frères qui sont tes frères qui ont en même temps les enfants de Léa, par exemple, mais les enfants de Rachel, les servantes de Rachel, eux, ils ne se prosterneront pas devant toi, pas du tout. Tout le monde se prosterne devant toi.
Ça fait partie de la bracha que Yaakov a reçue.
Oui, mais c'est ce qu'il dit ici. Pourquoi Yitzhak il dit simplement Bnei Mecha? Pourquoi chez Yaakov c'est marqué une fois Avicha, une fois Imecha? Parce que chez Yaakov on doit être précis, puisqu'il avait quatre femmes. Pardon? Parce qu'on aurait dit peut-être, venez Avicha, on aurait peut-être dit c'est la femme principale, c'est-à-dire, ou bien on aurait dit c'est Léa, ou bien c'est Rachel, mais pas les servantes peut-être. Pardon? Oui, mais si on parle que du père, on pourrait considérer le père et les... Ici, c'est assez intéressant de voir que les femmes sont appelées Arba Nashim. Il y a quatre femmes. Parce que le reste du temps, c'est presque toujours marqué, il n'y a que deux femmes et deux servantes. Ici, ils mettent les quatre femmes sur le même plan. Servantes sur le même plan que les maîtresses. Du Midrash, on a l'impression que Stam, on aurait dit Vishtachavu lecha bnei imecha, comme chez Yitzhak. C'est-à-dire les enfants de Léa. Alors, comment est-ce qu'on a récupéré les quatre femmes en disant bnei avicha? Parce que disons aussi les enfants, tous sont les enfants du même père. Donc ici, c'est intéressant de voir que, bien que très souvent on parle du yichus, du lien, etc., avec le père, ici, on met en évidence le lien avec la mère. C'est-à-dire que, pour pas qu'on pense que c'est seulement sa mère, c'est-à-dire Léa, les enfants de Léa, et pas ceux de Rachel, de Zilpa et de Bilha, bon, alors il faut dire « Bnei Avicha ». Mais on part de Bnei Imecha comme chez Yitzhak Avinu. Et chez Yitzhak Avinu, on n'a pas besoin d'ajouter parce que Bnei Imecha, c'est aussi Bnei Avicha. Ben, ça veut dire qu'il faudrait savoir qui était le géniteur. Non, Bnei Imecha, là en l'occurrence, c'est essentiellement d'abord ta mère, tes frères par ta mère. Pas envisager la mère porteuse ici. Alors, t'as dit pourquoi est-ce que ce qui est dit de façon plus importante, c'est Bnei Imecha, pas Bnei Avicha. Bnei Avicha, c'est simplement pour inclure les autres femmes. Mais c'est pas du tout, l'accent n'est pas du tout sur le fait qu'ils sont les enfants de ton père. Pourquoi dans la Ishta Havaya, dans le fait de se prosterner, on fait référence à la mère, ou aux mères? Le lien de quelqu'un avec sa mère, il est premier avant son lien avec son père. La Ishta Havaya, se prosterner, c'est s'effacer devant quelqu'un. Si je me prosterne, ça veut dire je m'efface contre terre. Et donc, c'est comme si je disais, je ne suis rien devant toi. Alors, se prosterner devant mon frère par ma mère, par nos mères respectives, ou pas respectives d'ailleurs, par nos mères, par ma mère initialement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire par opposition à ce qu'on dirait si on disait « Vishtarabulcha bnei avicha » en premier. Donc, ce que le Midrash dit, je répète, ce que le Midrash dit, c'est la Ishta Havaya, c'est l'Ishta Havaya des frères par la mère. Donc, c'est pour ça que Yitzhak Avinu, il dit les enfants de ta mère, il n'y a rien besoin de préciser, puisque si c'est sa mère, c'est la femme de Yitzhak, et Yitzhak, il n'a qu'une seule femme. Mais chez Yaakov, on est obligé de dire, chez les enfants de Yaakov, on est obligé de dire, venez à Vicha pour inclure les autres mères aussi. C'est toujours en termes de mère. Donc ce que je voudrais voir avec vous, c'est ça. C'est qu'est-ce que c'est que ce lien par la mère dans la Ishta Havaya, dans le fait de s'effacer complètement. C'est ça qui est fondamental, visiblement. On pourrait dire, se prosterner devant quelqu'un parce que on a le même père, c'est pas du tout la même, ça ne sonne pas du tout de la même manière que parce qu'on a la même mère. Si vous voulez commencer par là, vous pouvez commencer par là. Qu'est-ce que ça voudrait dire de se prosterner parce qu'on a le même père? Il me semble que la relation au père, c'est une relation construite. Ce n'est pas une relation des entrailles, mais pas issue des entrailles du père. Donc c'est une construction. On peut penser que c'est une construction qui passe par la mère. Vous voulez, le rapport de l'enfant à son père, il passe probablement parce que par le biais du rapport de l'enfant à la mère et du rapport de la mère au père. Si vous voulez, c'est la mise bout à bout des deux trajets. La confiance que l'enfant met dans sa mère parce qu'elle l'a porté 9 mois, ensuite elle lui donne à comprendre qu'elle fait confiance au père, et donc que lui, par transitivité quasiment, il peut aussi faire confiance au père. Donc se prosterner parce qu'on a le même père, c'est se prosterner dans une optique construite. C'est moins les tripes, en quelque sorte, c'est moins essentiel que de se prosterner parce qu'on vient des mêmes entrailles. Et on comprend bien que se prosterner devant un frère qui n'a pas la même mère que moi, c'est du type se prosterner devant quelqu'un qui a le même père que moi. C'est une construction. Se prosterner devant, pour un fils de Léa, se prosterner devant un fils de Rachel, Bon, c'est artificiel, c'est une construction. Pourquoi c'est mon frère? C'est pas mon frère. Ben si, c'est mon frère au même titre que il est mon frère par mon père. Donc je peux aussi maintenant prosterner devant mon frère qui a non pas la même mère que moi, on ne vient pas du même utérus en fait, mais à la limite on vient des mêmes femmes, enfin, dans leur rôle de femme avec le même homme, avec le même mari. Donc je crois que c'est pour ça qu'on met en avant la prosternation devant le... devant Bnei Imecha d'abord. Et ensuite on compense les autres mères par le biais du père parce que c'est la même chose en fait. Consent, je continue.
Non, mais ça veut dire que depuis le début, s'ils sont modimes, c'est aussi qu'ils s'est construit. Ils sont devant Yehuda. On a l'air de dire que tout ça, c'est effectivement pas, c'est pas venu comme ça, naturellement, parce que brusquement, il a une tête de leader.
Mais quand tu veux t'écraser, il faut sortir du construit. On va d'abord avoir une relation. Plus des tripes, quoi. Imecha. D'abord, ses frères par Léa, par la mère Léa. Non, ça veut dire, je reconnais. Ce que Yaakov dit, c'est ils te reconnaîtront comme roi. Voilà, c'est l'écrasement total, puisque bon, ils viennent du même utérus, du même utérus ensemble, Yaakov et Esav. Pas seulement du même utérus, mais ils étaient ensemble dans le même utérus.
Parce que là, c'est Yaakov qui avait peur, qui était animé.
Oui, alors il avait peur, donc, et oui, il voulait absolument pas. Parce que Chazal dit quand même qu'il avait autant peur de tuer que d'être tué. Dégradant de tuer.
Parce qu'il y avait un safek de est-ce que je tue, parce que, est-ce qu'il a l'intention de tuer avant de...
Oui, alors après il faut savoir, même si je dois tuer, bon, mais pourquoi je dois tuer? Parce que c'est un Baba Marderet, c'est le type en face, il est prêt à te tuer, donc Hachkem Leorgo, lève-toi et tue-le. Et tu ne peux pas dire je... Pas de naïveté, quoi.
Donc, je crois que là-bas, il y avait encore un deuxième problème, c'est qu'ils étaient plusieurs avec Esav. Tous ceux qui accompagnaient Esav, l'ambiguïté, c'est de savoir est-ce que les gens qui accompagnaient Esav voulaient aussi tuer Yaakov ? Ou est-ce qu'il est venu uniquement pour lui faire peur ? Donc, le Safek vient de là aussi.
Ouais. Bah, ils auraient certainement obéi à Esav si Esav leur avait donné l'ordre de tuer Yaakov. Ce que je ne sais pas, c'est s'ils auraient obéi à Yaakov, de le dépouiller, et de considérer que, ayant dépouillé, ils l'ont tué. Ce que Eliphaz a été d'accord de faire, parce qu'il était l'élève de Yaakov, mais est-ce que les clients de la troupe, là, les mercenaires, ou je ne sais pas quoi, des Saves, est-ce qu'eux aussi auraient entendu ce langage? Bon, c'est là. Sera fiction, hein. Je sais pas. On ne peut pas refaire l'histoire autrement. Gour Arié Yehuda, Melamed Shenatan lo Gvura shel Ari, Vechutzpa shel Gurav. Gur Arié Yehuda. Donc c'est là aussi des, je crois, des lionceaux, je ne sais pas quel. Il est arié, il est gour. De l'appeler en même temps, de lui donner deux noms. Mais la mèche chez Nathan Log, Vura chez Larry, il lui a donné la puissance du Harry. Du lion. Et aussi l'impudence, la chutzpa, chez le gourav, des lionceaux. Qu'est-ce que vous pensez?
L'impudence, c'est pas trop bracha, là. Enfin, c'est une qualité un peu négative.
C'est une mida. Enfin. C'est évident que c'est pas. La question, c'est quand est-ce qu'on va dire que c'est cette chutzpa qui s'est manifestée. Je sais pas.
Est-ce que ça rentre toujours, ça rentre dans le cadre des brachot ou pas? Ce qu'on avait dit, la bracha, c'est de donner à l'enfant le caractériser au mieux, lui donner ce qu'il est, dire ce qu'il est. Alors qu'ici, on lui donne, on développe, on lui donne quelque chose.
Bon, Frédéric, je l'ai remarqué, c'est pas évident que la route passe, ça soit toujours positif. Puissance du lion, bon ben, il fait un acte de puissance, a priori il ne va pas être contesté de sitôt. Mais qu'est-ce que lui apporte, disons, Florian, comme ça? Qu'est-ce qu'apporte cette chutzpa? Parce qu'ils disent la chutzpa, elle vient d'où? Elle vient de ce qu'ils ne connaissent pas les choses. Ils ont une chutzpa, ils n'ont aucune idée des conséquences de ce qu'ils font. Ça, la chutzpa. Tu penses que tu peux tout te permettre. Ils se sentent très forts, ils se sentent lions déjà. Mais ils ne savent pas encore que. Peut-être qu'il y a un vieux lion qui va leur donner un coup de patte et qui va me faire gicler. Ou autre chose, ou un éléphant, quelque chose qui va.
Joseph, il a l'air de mettre cet as-résout.
Et de Sosiev ?
Oui, enfin, on ne voit pas très bien, mais c'est vrai que Sosiev le voit. Cette...
Non, mais je vois très bien. Quoi, Hayafé, Shelagou, Oazrizout. Pardon ? Là, Zrizout, c'est du zèle, c'est du. Ouais, on lui dit de l'empressement.
Donc là, c'est plutôt côté positif alors ?
Là, c'est le côté positif, oui.
Parce qu'empressement, ça devient aussi un peu. Enfin, tomber dans le négatif, on a vu avec.
Tant ?
Parras Kamein, il est trop. Il est très réactif, il est réagit pas. Impulsif.
Oui, on ne peut pas dire qu'il lui a donné cette impulsivité parce que c'est la raison pour laquelle il a tout enlevé à Rouven. Donc, il lui donne cette impulsivité.
Mais dans le versant positif.
Oui, alors qu'est-ce que c'est le versant positif ici ? Pour, traduit chez Yehuda, traduit chez David Amelech. C'est-à-dire que le risque, c'est comme ça. Quand on est très très fort, quand on est le lion, on peut être tenté de se dorer au soleil. Parce que, bon, personne ne lui. Il n'arrive jamais rien si quelqu'un passe trop près de la. Et quand il a vraiment faim, il court un peu. Donc on peut imaginer qu'il s'encroûte un peu. Pardon ? En plus, il envoie les femmes, donc c'est clair qu'il n'a pas à se bouger. Alors que les lionceaux, il y a ce zèle, bon, il faut bouger, quoi. Peut-être qu'on a besoin de... David Amelech, il y avait ça chez lui. Il y avait à la fois... puissance et à la fois effectivement une capacité à entreprendre, une capacité à faire la guerre. Bon. Donc ce serait ça l'idée, le gourarier, c'est pour lutter contre l'encoûtement. Teref beni alita. Alors, dit Teref, c'est la chambre tréfale de déchirer. La déchirure, en fait. Mon fils, tu t'es élevé, c'est-à-dire mitarpo shel Yosef. Alita menita alita. De la déchirure de Yosef, tu as grandi, tu t'es élevé. Mitarpa shel Tamar, alita mitalita. Donc on lui dit deux choses. Avec Yosef et Tamar, tu as grandi. Donc il s'est construit grâce à... Je veux presque dire grâce à deux erreurs. Grâce à... En tout cas, avec Tamar, il est fautif, comme il dit lui-même. Je ne vais pas donner Shéla. J'aurais dû lui donner Shéla. Je l'ai obligé à en passer par là. Et de cette situation-là où tu l'as obligé à en passer par là, tu aurais pu voler complètement si tu n'avais pas avoué. Tu as avoué, alors tu t'es élevé, finalement. Je pensais que Yehuda, quand il reconnaît que c'est lui le géniteur des deux enfants que Tamar porte, il reconnaît devant un Beddin dans lequel il y a son père et son grand-père. Un Beddin de Yaakov et Yitzhak. Pas toujours tellement évident de reconnaître devant son père et son grand-père une erreur pareille, quoi. Que tu as poussé une femme à devoir passer par-dessus tout pour alors que ça lui revenait de plein droit. À cause de toi, elle a dû passer par cette situation archi désagréable, y compris la dernière, je veux dire. Il fallait ne pas craquer. Oui. Avec lui. Lo Yosif, c'est un verset qui dont on ne sait pas comment il faut le lire. Lo Yosif, ça veut dire il n'a plus jamais eu de rapport avec elle, ou bien il n'a pas cessé d'avoir des rapports avec elle. C'est intéressant qu'on ne sache pas finalement ce qui s'est passé par la suite, parce qu'au fond tout ce qui devait se passer en eux, on le sait, ça s'est passé. Elle a mis au monde Peretz et Zerach, c'est-à-dire le Mashiach, en marche le Mashiach, et pour le reste c'est anecdotique, mais au point que on ne veuille pas nous dire de façon claire s'ils ont continuer de vivre ensemble, ou s'ils se sont séparés.
Ça peut comme avoir un moment avec nous aussi. Quand il quitte Sarah, avec Ketura, il a d'autres enfants, c'est pas exactement chez lui. Il a des enfants. On n'est pas vraiment.
Voilà, c'est là.